liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour et bonne
Bonjour.
Rentrée.
Bonjour.
Merci. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyennes et citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens, tout attaché au singulier, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre mission, c'est la rentrée. Dominique nous parlera de la rencontre-débat avec le docteur Christian Prudhomme qui a eu lieu à Pont-d'Aubenin. Marie-Claude reviendra sous la rentrée scolaire. Claude va nous parler sous les luttes passées et à venir. Et pour finir, donc, nous allons faire l'annonce de la présentation d'un film documentaire « Chers et sonnes blanches, désespérément ». Voilà. Pour commencer, nous laissons la parole à Dominique.
Oui, alors donc c'est pas Christian Prudhomme, mais Christophe Prudhomme que nous avons eu le plaisir d'écouter à Pont-d'Aubenin lors d'une conférence débat, on va dire, organisée par l'Association des usagers de l'hôpital d'Aubenin. Et donc cet événement a fait écho à des sujets qu'on a régulièrement soulevés dans notre émission, la désertification médicale, la difficulté de trouver un médecin, etc. Les soignants qui ont été suspendus et puis après on nous dit qu'il manque de soignants et qui s'est aggravé pendant l'été, donc pendant notre absence, avec l'accès limité aux urgences, notamment la nuit. Puisqu'il faut maintenant passer par le 15 pour pouvoir aller aux urgences en nocturne. Voilà, donc le 13, nous étions à Pont-d'Aubenin pour écouter Christophe Prudhomme, qui est médecin urgentiste au SAMU du 93 de Bobigny depuis 1987. Il est également représentant CGT des médecins. Il est par ailleurs membre du Parlement populaire national de la NUPES. Et il s'élève depuis fort longtemps contre les politiques de santé menées, la destruction de l'hôpital public, la pénurie générale de médecins, les mesures autoritaires comme le pass sanitaire, etc. Voilà. Donc Antonia a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Nous l'écoutons.
Ah oui, c'est que l'État joue son rôle. C'est-à-dire d'organisation des services publics sur le territoire pour respecter un principe constitutionnel qui est l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Donc ça veut dire qu'il faut remettre à plat l'ensemble du système de santé. Il va falloir réguler l'installation des médecins, tant en ville qu'à l'hôpital, pour que chacun puisse avoir un médecin traitant, que chacun puisse avoir un hôpital de proximité. On ne demande pas de la chirurgie cardiaque à Aubenas, mais on demande que de pouvoir se faire opérer de l'appendicite, d'avoir un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voyez, hein, ça nécessite qu'il y ait un véritable débat. Non pas dans le cadre de ce que nous propose M. Macron, hein, dans son fameux CNR, hein, c'est savoir si la santé relève du service public et de l'aménagement du territoire, ou si on continue avec un système hybride mix public-privé, comme ici à Aubenas. À Aubenas, ici, il n'y a pas la possibilité de maintenir un hôpital et une clinique. Voilà, si on veut un service de santé cohérent, il ne faut pas qu'il y ait la concurrence entre l'hôpital et la clinique. Et donc, pour nous, il faut intégrer le secteur marchand dans le public. Voilà, la santé, pour nous, ne relève pas du secteur marchand, du secteur privé lucratif. On a vu ce que ça donnait quand on confiait ce secteur à des marchands. Ça donne Orpea, avec le scandale d'Orpea. Donc, on est assez radical, mais parce qu'on est dans une période de crise qui nécessite de faire ses choix politiques. Et on espère que dans le cadre du débat sur la loi de finances de la sécurité sociale, comme M. Macron n'a pas eu la majorité, ce débat émerge pour qu'on puisse aller jusqu'au fond de la question. C'est-à-dire que, on modifie le mode d'activité des médecins, que ce soit dans des centres de santé avec des médecins salariés, autour d'hôpitaux de proximité où on a un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24, une maternité de proximité, qu'on puisse se faire opérer de choses simples comme la cataracte, l'appendicite à proximité, qu'on aille ici à Lyon, à Aix ou à Marseille quand on a besoin d'un plateau technique, voyez, performant, oui. Et pour le reste, on doit pouvoir essayer l'aménagement du territoire. Enfin, quand on parle d'écologie, la bonne écologie, c'est qu'on ait des services publics de proximité et qu'on ne soit pas obligé de faire des centaines de kilomètres pour aller se faire soigner. Voilà. Hein, donc, alors ça veut dire un certain nombre de contraintes à imposer aux médecins, mais c'est du non. Vous voyez, aujourd'hui, une des mesures à privilégier, c'est la visite à domicile. Parce que la population vieillit et les gens ne peuvent pas se déplacer dans une maison médicale de garde comme on nous propose aujourd'hui. Ben pour ça, on discute avec les médecins. Si effectivement c'est fatigant qu'il y a des contraintes, on peut proposer une voiture à un chauffeur pour que le médecin puisse faire ses visites à domicile dans de bonnes conditions. Il est clair que quand on va travailler ici à Aubenas, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'aux hospices civils de Lyon. Donc il faut qu'il y ait des conditions de travail et de rémunération qui soient peut-être différenciées. Hein, donc tout ça, c'est à discuter, et ça va être discuté dans le cadre d'un dialogue social et non pas dans des shows médiatiques comme ce qui est proposé par le ministre de la Santé, puisque c'est la déclinaison de du fameux CNR. Ils appellent ça la conférence des parties prenantes. Moi, je ne sais pas ce que c'est la conférence des parties prenantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir discuter de l'avenir de l'offre de santé locale et dans les territoires. Et le territoire, c'est déjà un département, et dans un département, il y a parfois plusieurs pôles. Eh bien, on discute de quelle offre de soins on a autour d'Aubenas, autour d'Annonay, autour de Privoix, qui sont les trois grands pôles qu'on a sur ce département. Il y a aussi la vallée du Rhône, mais on voit bien que l'hôpital de Valence est aussi en grande difficulté, puisque l'hôpital de Valence a été obligé de fermer son service d'urgence fermé. Hein, ce n'était pas une régulation de l'accès, fermé le week-end du 15 août. Voilà, donc la gravité de la situation nécessite autre chose aujourd'hui que des shows médiatiques, comme nous proposent à la fois M. Macron et M. Braun dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça qu'on est là, que je me suis déplacé aujourd'hui à Aubenas. C'est pour qu'on en discute avec les gens qui sont les meilleurs experts. Et les meilleurs experts, ce sont les citoyens, tous futurs patients. Et non pas les crânes d'œufs. J'utilise volontairement ce terme qui nous explique dans les agences régionales de santé que ce n'est pas grave si on ferme les services parce qu'il y a l'hélicoptère en cas d'urgence. Non, l'hélicoptère, ça vole par beau temps, mais quand il y a le brouillard l'hiver, ce n'est pas l'idéal. Et puis, c'est complètement inadapté au niveau humain et médical. On a le droit d'avoir près de chez soi un médecin traitant, on a le droit d'avoir un hôpital de proximité.
Bon, si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Prudhomme, à la prochaine manifestation pour le soutien à l'hôpital, soyons nombreux dans les rues d'Aubenas, parce que ça devient crucial.
Oui, c'est vrai.
Alors, je crois que Christophe Prudhomme a répondu à une autre question d'Antonia.
Oui, donc écoutez la deuxième partie, la question concernant le rôle des cellules locaux.
Les élus locaux, il faudrait qu'ils soient un peu plus dynamiques et un peu plus clivants qu'ils ne le sont à l'heure actuelle sur ces questions. Alors souvent, oui, ils n'ont pas... ils laissent cette question aux spécialistes que seraient les professionnels de santé, en particulier les médecins. Non, si on laisse l'organisation du système de santé aux médecins, les médecins vont l'organiser dans leur propre intérêt. C'est normal. C'est la défense catégorielle, et les médecins, ils défendent leur intérêt catégoriel avant les autres. Non, aujourd'hui, les médecins, les infirmières, les professionnels de santé peuvent proposer des solutions, mais ceux qui posent les problèmes sont les citoyens. Et le problème qu'ont les citoyens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent avoir un médecin traitant disponible pour les voir dans la journée quand ils ont 42 fièvres. Ils veulent avoir un hôpital de proximité avec un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. Les femmes enceintes veulent avoir une maternité de proximité où elles peuvent accoucher dans de bonnes conditions, comme c'est le cas dans 80% des cas quand l'accouchement est normal. Quand l'accouchement pose des problèmes, on transférera sur un hôpital de plus haut niveau. Mais la grossesse n'est pas une maladie, dans la plupart des cas. Donc on doit pouvoir accoucher dans un hôpital de proximité, pas être obligé de faire 50 ou 60 km pour trouver une maternité ouverte, en particulier l'hiver quand il y a de la neige sur la route, ce qui peut être le cas ici, dans votre département. Donc voilà, c'est tout ça qu'on veut poser aujourd'hui. Les meilleurs experts sont les citoyens. Voilà, les meilleurs experts sont les citoyens, et ce ne sont pas aux pseudo-spécialistes dans les agences régionales de santé secondées par des médecins qui ne voient plus de malades de définir quels sont les besoins de la population. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ils définissent les besoins de la population en fonction d'un impératif qui est toujours le même, le fameux déficit de la sécurité sociale, il faut faire des économies. Alors vous voyez, on ne remplacera pas un médecin par une cabine de téléconsultation. La télémédecine, c'est très intéressant pour apporter un plus. Vous voyez, je suis très content de faire la télémédecine pour avoir un avis d'un neurologue quand quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral. Donc, parce que je peux transmettre les images, je peux même faire avec lui l'examen avec une caméra. Ça, c'est un plus. Mais remplacer les médecins par une cabine et des automatismes, non. Voilà, quand on a mal au ventre, on a besoin d'un médecin qui palpe le ventre pour voir quelle est la gravité du mal de ventre. Et ça ne se fait pas dans une cabine de télémédecine.
Oui, alors je compléterai l'interview de Christophe Prudhomme par un débat qui a eu lieu, enfin un échange qui a eu lieu dans la réunion publique autour de comment faire pour avoir des médecins. Parce que c'est bien beau de dire il faut ça, mais après, à un moment donné, la question du manque de médecins se pose. La question du numerus clausus, qui est toujours appliquée malgré ce qui est dit, qui nécessite que les facultés aient de nouveaux moyens pour pouvoir former les médecins, parce qu'aujourd'hui, elles sont obligées de restreindre le nombre de gens formés. Et par ailleurs, a été soulevée la question de payer des jeunes de nos territoires qui souhaitent de financer leurs études, payer leur logement, la nourriture, enfin, etc., pendant la durée de leurs études. Voilà. Et ça pourrait être le rôle des collectivités locales, comme ça a été le cas dans le passé d'ailleurs, et ça a existé, tout comme l'État peut tout à fait mettre en place des contrats formation-études qui ont existé dans le passé chaque fois que la nation avait besoin de professionnels dans un domaine particulier pour être salarié. Voilà, donc je crois qu'ensuite on enchaîne sur un autre sujet.
Oui, donc on va parler de la rentrée scolaire, c'est toi Marie, donc tu vas nous communiquer comment ça s'est passé la rentrée et nous donner quelques chiffres.
Oui, alors la rentrée scolaire en Ardèche. Donc, il y a eu 10 fermetures de classes en Ardèche à la rentrée 2022. Alors, l'école maternelle Cassin de Privas, école élémentaire de Fontchevalier, Annonay, de Rochemort et de Bourg-Saint-Andéol Nord. À l'école primaire de Pogre, Aubignas, Saint-Just d'Ardèche, Pranle, La Bégude et à l'école de Baza d'Aubenas. Il n'y a eu aucune amélioration pour le RASED. Le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. Ce réseau apporte l'appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. Il les aide à analyser les situations et à reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves à construire des réponses adaptées. 190 élèves de moins dans le primaire public en Ardèche. L'inspection d'académie annonce seulement un poste d'enseignement supplémentaire. Il y a tout de même quelques ouvertures de classe. Saint-Georges-les-Bains, Annonay-Ripaille, Bourg-Saint-Andéol, Le Teil, Montpezat, Sous-Bauzon, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Sauveur-de-Cruzières et Féline. Je voulais revenir sur l'école de Baza. Une classe école élémentaire Baza à Aubenas est supprimée. 12 élèves en dispositif Ulysse sont transférés à l'école de Saint-Étienne-de-Fombelon. Donc, Ulysse, c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est un dispositif qui offre aux élèves une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins, ainsi que des enseignements adaptés. Cela permet la scolarisation dans les premiers et seconds degrés d'un petit groupe d'élèves, des élèves en situation de handicap, de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs besoins. Ils peuvent ainsi acquérir des compétences sociales et scolaires. Dans un communiqué, l'inspecteur d'académie indique que 50 élèves seraient inscrits en élémentaire dans cette école de Baza et que donc 3 classes ne se justifiaient plus. Au niveau national, rentrée scolaire 2022, je voulais en parler un petit peu quand même. Pour le gouvernement, la rentrée s'est bien passée, mais si on se dirige du côté des enseignements, la musique est très différente. 4000 postes d'enseignants n'étaient pas pourvus. Au dernier moment, il a fallu trouver des contractuels pour pallier au manque. Le concours ne fait plus recette et il y a moins de candidats. Problème d'attractivité de métier en 20 ans, les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de leur rémunération en euros constants. Ils sont moins bien payés que leurs homologues européens. Donc le nombre de candidats au CAPES externe est passé entre 2006 et 2021 de 50 000 à 30 000. Sur la période premier et deuxième degré confondus, le nombre de démissions est passé de 350 à plus de 1600. Donc, que fait-on ? Eh bien, on arrive à faire du job dating, un minimum de bac plus 3, 30 minutes d'entretien, c'est super. À quoi bon passer des concours difficiles quand on peut être embauché en 30 minutes et être formé en 4 jours ? Je rappelle que le concours, c'est quand même le niveau Master 2. Petit mot sur Parcoursup. Donc, il y avait 3300 étudiants qui sont restés sur le carreau. Le ministre de l'Éducation affirme que des améliorations seront apportées à partir de l'année prochaine. En attendant, des étudiants sans aucune place, des étudiants contraints d'aller étudier à l'étranger, des étudiants reclassés dans des filières n'ayant rien à voir avec leurs vœux, les écoles privées trop coûteuses pour certains budgets et des élèves qui abandonnent. J'ai appris aussi qu'une nouvelle plateforme pour les inscriptions en première année de master sera mise en place en février. Ça promet. Si c'est aussi simple que Parcoursup, c'est une sélection de plus pour nos jeunes.
Oui. Merci voilà. Beaucoup Marie. Donc nous passons la parole à Claude. Claude, donc tu vas nous parler sur les luttes passées et à venir.
Oui, alors les actions passées, le 5 septembre 2022, les ATSEM, agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, se sont organisés déjà en syndicat en début d'année et ont fait une action, entre autres à Millet, tractage. Les journaux du coin sont venus interviewer les ATSEM. Les ATSEM se nomment eux-mêmes les couteaux suisses de l'école. Ils sont partout, du matin jusqu'au soir. La cantine, l'aide aux... Donc ils sont absolument indispensables. Et ils veulent une reconnaissance de leur métier, ce qui me paraît tout à fait naturel. Le 17 septembre a eu lieu la fête de la Confédération paysanne à Bise. Le mot d'ordre était « revenir à une échelle humaine ». Vous verrez l'enregistrement vidéo sur la chaîne Pluriel sur YouTube. Je laisse la parole à Dominique qui voulait parler d'un événement triste qui a eu lieu hier.
Oui, je voulais juste dire deux mots sur le décès d'une personne remarquable pour nous sur le territoire, qui est Jean-Luc Murat, que nous avons accompagné lors de ses obsèques hier à la Bastide-sur-Vesorgues. C'est important pour nous, notamment parce que c'est quelqu'un qui nous avait soutenus au rond-point de Millet, qui était venu soutenir les Gilets jaunes, et notamment qui nous avait offert, au moment du réveillon du 31 décembre 2018, un cochon farci que nous avions partagé dans la plus grande convivialité. Nous étions très nombreux à ce moment-là et nous avions passé une très bonne soirée. Jean-Luc, c'était pas... il avait, on va dire, un peu plus de 60 ans même. Il approchait 70. C'était un militant de longue date. Hein. Il avait été objecteur de conscience. Il s'était battu dans plein de domaines. Il était boulanger. Il élevait des cochons. Il a eu élevé des moutons, des chiens. Enfin bref, il s'était installé sur la Bastide et il s'était impliqué dans de nombreux combats nationaux et locaux. Voilà, donc on est allé dire adieu à Jean-Luc et je tenais à ce qu'on le sache, que c'est un homme rare qui nous a quittés.
Merci, on ne l'oubliera pas. Merci. Le jeudi 29 septembre, à l'appel de l'intersyndicale d'Aubenas, grève et manifestation, rendez-vous à 14h à l'Agora. Venez nombreux, parce qu'il faut vraiment montrer au gouvernement que peu de choses vont nous satisfont. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Tous unis, imposons le blocage des prix de première nécessité et de l'énergie, augmentation des salaires, des retraites et minima sociaux. Je voulais parler très très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, du sale coup que préparait le président du département de l'Ardèche, en voulant conditionner le versement du RSA, en obligeant les bénéficiaires à 10 heures de travail par semaine. C'est tellement énervant que je perds ma voix, mais c'est absolument monstrueux. Faire travailler des gens à qui on donne 480 euros par mois par solidarité, on va pas aller chercher Monsieur Arnaud pour lui faire faire 10 heures par semaine avec tout le fric qu'il gagne. Donc il faut aussi que là, on soit conscient que ça va faire du mal aux plus pauvres, aux plus précaires.
Merci Claude. Donc je reviens sur la date du 29 septembre. Donc il y a la projection du film documentaire « Chers et jaunes blanches, désespérément » au cinéma Le Navire, donc le 29, jeudi 29 à 18h30. Donc c'est Georges donc, qui nous avons recueilli donc, ses déclarations, ses paroles concernant donc, ce film. Nous allons l'entendre.
Bonjour Antonia, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, c'est le collectif Stop Linky 5G07, mais qui fonctionne avec l'association Courant d'Alternative. C'est une association sœur. Et la présence de l'association Poème 26, qui est très compétente sur le problème de la santé des électrosensibles. Alors, ce film « Cherche jaune blanche désespérément au navire » à Aubenas, le jeudi 29 septembre à 19h30, comme vous a dit Antonia, ce n'est pas seulement un documentaire, mais en quelque sorte, c'est une alerte. En effet, avec les séductions, les injonctions permanentes au tout numérique, ça modifie considérablement nos modes de vie au point d'en oublier la vie, quoi. Des milliards de technologies numériques envahissent notre quotidien pour une déshumanisation, quoi. On nous construit une e-société, alors ça s'écrit e-société, e-médecine, e-justice, e-éducation, e-sociale, e-sociale. Alors de plus, ces technologies nécessitent l'augmentation démesurée des réseaux, quoi. Des techniques, des transmissions et du nombre d'antennes et d'ondes de toute nature explosent. Aussi bien en dehors de la maison qu'à l'intérieur de la maison d'ailleurs. Alors ignorer que ces ondes invisibles nous mettent en danger est en fait quasiment suicidaire. Cherche jaune blanche désespérément est un film alerte pour, on va dire, une électroconscience, quoi. Aujourd'hui, en France, plus de 3,5 millions de personnes, 5%, sont déjà devenues malades à cause des ondes électromagnétiques artificielles. Et dans certains pays, jusqu'à 10%. Le problème, c'est qu'on ne naît pas électrosensible. On le devient. Ce documentaire montre, avec des témoignages poignants, comment on devient électrosensible lentement, à notre insu, et quand la pathologie s'installe, c'est l'enfer. Personne n'est à l'abri, hein, si on n'apprend pas à se protéger. Alors donc, à l'issue de la projection, environ une petite heure, il y aura un temps avec le public et des personnes compétentes pour échanger sur comment agir et se protéger. Il y aura aussi de la documentation, hein, bon, avec une petite contribution libre, mais consciente de nos frais, bien sûr. Et une documentation pour approfondir avec des informations sérieuses et référencées, au-delà des discours séduisants qui nous aveuglent. Bon, on souhaite aussi la présence de nombreux médecins et soignants à cette projection, et pas seulement. Il sera question aussi d'interpeller socialement différentes structures. Alors les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cliniques, les mairies, la sécurité sociale, le centre des impôts, Pôle emploi, etc. Hein. Toutes ces structures afin de pouvoir envisager des possibilités d'accueil, protéger des ondes pour ces personnes électrosensibles qui vivent exclues socialement, il faut le savoir, hein, ça. Il sera peut-être aussi l'occasion d'envisager pour les professionnels de santé la possibilité de formation, hein, formation au diagnostic et aux soins, selon les personnes qu'on est en train de contacter et qui interviendront. Voilà. Bon, bah, écoutez, rendez-vous donc le jeudi 29 septembre à 19h30 au cinéma Le Navire, qui a vraiment fait l'effort d'une entrée à 6 euros seulement pour ce film. Et d'ailleurs, on remercie chaleureusement cette équipe dans ces temps difficiles. À bientôt donc, on vous attend.
Bon, moi j'irai le 29 au Navire.
C'est très bien. Et avant, à la manifestation à l'Agora, ouais. C'est ça?
Absolument.
Dans la même journée.
Dure journée.
En tout cas, moi j'ai un voisin qui est... elle est trop sensible, mais mes petits-enfants l'appellent l'apiculteur parce qu'il a tout un truc là sur la tête. Mais il vit un enfer. Il est jeune, il a 50 ans, c'est vraiment infernal. Donc je pense que jeudi soir, on a intérêt à être nombreux pour... Oui. Plus on est prévenu, et mieux c'est. Quoi.
Oui, ouais. C'est vrai, absolument.
Bon, on va peut-être approcher de la fin de notre émission. Voilà, donc... Tu as parlé du RSA, je crois qu'il faut qu'on soit... Il y aura des actions, hein, donc, mais on en parlera certainement à la prochaine émission.
Oui, c'est bon.
Voilà. Il y aura des dates à ce moment-là. Oui. Et donc, on va peut-être...
Oui, donc la prochaine émission, hein, on vous le rappelle, donc dans 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions, paroles des citoyens tout au singulier, @fréquence7.net. Merci les filles.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.